Maintenant, on en vient sur l'organisation de cet atelier qui, pour moi, voudrais surtout vous donner la parole. Ce matin, en écoutant Nicole Tuttio-Guyon, j'ai eu un moment un très grand trouble, parce que tout ce qu'elle disait en décrivant les tensions mal résolues, insoluble peut-être, je ne sais pas, ou en tout cas plutôt que à l'intérieur de questions d'enseignement de l'histoire à l'école, finalement je retrouvais très subjectivement un certain nombre des pièges dans lesquels moi-même je me l'ai trouvé prise l'année où j'ai pu avoir l'autorisation d'un ministre de l'Éducation nationale qui a disparu depuis, qui était Alain Savary. Et qui m'avait autorisé exceptionnellement, puisqu'à l'époque j'étais cadre A et on ne devait pas fréquenter les métiers de cadre B, m'avait permis de prendre une classe pendant un an. Et je me l'ai trouvé comme la suppléante qui arrive la dernière dans une école à devoir assumer un CM2, comme ça se faisait en 84 encore, où il y avait un enfant qui avait 3 ans de retard, 7 qui en avaient 2 ans de retard, 6 qui avaient un an de retard, et puis 2 enfants qui avaient 3 ans, 3 enfants qui avaient un an d'avance, et un qui avait 2 ans d'avance. Donc on avait, on était en 84, c'est-à-dire quand même 10 ans après le collège unique. Hein. Et je pense que j'avais une bonne formation en histoire, bien que n'ayant pas fait des études d'histoire, en tout cas certainement plus que la plupart des normaliens que j'avais eu devant moi pendant des années où j'étais prof à l'école normale de Versailles. J'avais plus lu aussi que de tas de choses, je savais plus de choses qui se lisent sur la didactique de l'histoire. Et je me suis trouvée aussi démunie que, c'est ce que je voulais faire, c'était ça que je voulais voir, c'est qu'est-ce que c'est de devoir faire ce qu'on dit. Voilà. Donc pour moi, c'est important de savoir. Alors, les conseillers pédagogiques, je sais que vous avez tous été instituteurs ou maîtres d'école. Les IDEL, les IEN qui sont là, lesquels ont été instituteurs, institutrices. Les autres qui étaient professeurs de secondaire. Combien de temps 25 ans, collège et lycée.
Lycée essentiellement.
Lycée essentiellement.
Et formatrice en même temps.
D'accord. oui.
Une dizaine d'années.
Collège ou lycée?
Lycée.
Pour moi, c'est très important parce que la scolarisation au lycée n'est pas obligatoire. Alors que la scolarisation au collège, on veut dire, fait partie de l'école obligatoire depuis 1974, bon, avant. Les modes de fonctionnement de l'enseignement ne sont pas gérés de la même manière. Vous êtes conseillère pédagogique, donc vous savez.
Une douzaine d'années en collège.
Alors, Laurent, il était instituteur.
Moi, je suis UEN, ASH, donc adaptation scolaire. J'étais enseignant pendant 15 ans.
Pas dans l'enseignement spécialisé.
Non, enseignement primaire.
Enseignement primaire, c'est ça. Donc, normal. Oui.
27 ans.
En quoi ?
Secondaire.
Oui, mais collège ou lycée ?
Tout.
Parce que c'est un petit peu ça dont je voudrais qu'on parle un petit peu. C'est que Nicole Tuttio-Guyon, mais pas qu'elle, tout le monde a très bien insisté, et aussi Jean Le Duc au début, sur le problème de nos sources pour savoir ce qui se passe dans les classes. N'importe qui a été astite, c'est que quand l'inspecteur vient, il y a un certain nombre de choses qu'on ne présentera jamais. Même si c'est des choses dont on est très content quand il n'est pas là. Et qui sont trop aléatoires, sur lesquelles c'est trop compliqué d'expliquer. Ce serait trop fatigant d'expliquer. Et qui fait qu'on réserve ça à la vie privée des classes. À la rigueur, on le montrera à une conseillère pédagogique, surtout si on pense qu'elle est un peu une copine, même si elle a passé de l'autre côté de la barre, mais pas dans une situation formelle d'inspection. Et donc du coup, j'ai un doute, en tout cas une question, sur qu'est-ce que c'est qu'on voit, et donc qu'est-ce que c'est qui existe et qu'on ne voit pas. Et du coup, quand on parle, effectivement, Nicole le disait très clairement, selon qu'on parle des finalités, ou qu'on parle des pratiques, ou qu'on parle des problèmes d'évaluation. On va faire apparaître une partie de l'iceberg très compliquée qu'est l'enseignement au jour le jour, qui ne va pas éclairer les mêmes aspects de cette réalité. Alors, la réalité est énorme et multiple, et chaque fois on a un spot qui éclaire une seule chose. Et du coup, c'est très facile de mettre les témoignages ou les prises de vue en contradiction les unes avec les autres, parce qu'il n'y a pas un moment où on voit la totalité du système énergétique. Donc moi, c'est ça que j'aimerais mettre au cœur de notre discussion, c'est les gens qui ont eu une expérience professionnelle de l'enseignement de l'histoire en école obligatoire, surtout, je dirais primaire ou collège, de ce qu'ils se souviennent qu'ils ont fait, en n'ayant pas le sentiment d'avoir fait des choses ni exceptionnelles ni extraordinaires qui les mettaient en marge du corps, hein, d'avoir simplement le sentiment d'être des enseignants normaux, ce qui est déjà pas rien quelquefois. Qu'est-ce qu'ils ne retrouvent pas de ce qu'ils faisaient dans les descriptions ou dans les approches qui sont données par soit les rapports de l'inspection qu'on a entendu ce matin, soit les recherches beaucoup plus empiriques ou beaucoup plus interrogatives que nous rapportent les chercheurs. Ou est-ce qu'ils ont le sentiment qu'on a bien restitué la totalité ou ce qui faisait leur mode de fonctionnement ordinaire. Alors, je voudrais commencer par dire, moi, si j'essayais de faire avant de venir un espèce de répertoire, sans retourner à mes cahiers, à mes papiers, à mes prises de notes, etc. Mais dans ma mémoire, si j'essaye de me souvenir ce que j'ai fait en histoire, j'ai un sentiment que ce que j'avais fait c'était très mal, mais c'était normal, j'étais débutante. J'étais suffisante pour une débutante, mais pas plus. Mais ce qui me revient le plus en mémoire, a posteriori, des choses qui finalement correspondent bien à cette lignée que je dirais éducatrice plutôt que instructive, c'est tout ce qui a dû être fait, imposé par des événements. J'allais dire, entre guillemets, comme on dirait, en histoire occasionnelle, et non pas en histoire programmée. Par exemple, je vais vous donner une série d'exemples. Par exemple, il y a eu à un moment donné, c'était à Versailles, dans une école, quartier mixte, hein, où il y avait deux trucs ruinés, en général, mais aussi les fontainiers du jardin de Versailles, qui sont en bas de l'échelle de population de HLM, enfin bon, la caserne de pompiers, enfin un certain nombre de sous-officiers de l'armée, des casernes environnantes. Donc c'est très, très ouvert, comme on pourrait dire, comme milieu social. Et il y avait l'Ordre de Malte, qui n'était pas loin de là, et qui chaque année payait un voyage en car à Paris pour visiter quelque chose, et cette année-là, c'était les archives. Le directeur a dit, on y va tous, on ne va pas refuser un truc pareil. C'est tombé du ciel, ça n'était ni préparé, ni rien du tout. Donc, je me souviens très bien, pour les gamins, ça a été une chose incroyable, on est allé en car à Paris. Alors, moi j'ai commenté un peu le voyage, parce que certains de la classe n'étaient jamais allés à Paris, hein, de Versailles. Je pense au moins 8 sur les 30 que j'avais. Ce qui est quand même... Et la visite des archives était totalement à côté de la plaque pour des enfants de CM2, beaucoup trop difficile. Elle aurait été peut-être bien pour des élèves de 3e, mais elle était absurde pour des enfants de CM2. Et il a fallu, je dirais, récupérer les choses après en essayant de répondre à leurs questions, sur des questions qu'on leur avait posées, mais auxquelles ils étaient incapables de répondre. Donc, naviguer à vue avec ça. Je me souviens d'une autre fois où je suis rentrée dans la classe le jeudi matin et la veille au soir, il y avait eu la passante du sans-souci à la télé et les gamins, les trois quarts de la classe, avaient vu. Un quart n'avait pas vu. Et ils avaient tout mélangé, les nazis, les allemands, ils n'avaient pas compris que Romy Schneider était allemande et que c'était elle qui sauvait l'enfant et que l'enfant était mort. Non, une salade. Et ils m'ont posé des questions, madame, vous avez vu, c'était formidable, j'ai pleuré, bon. Et en même temps, il s'est vengé. Et alors, bon, un récit absolument. Et je me trouve, comme une institut normale, je pense, obligée de devoir répondre à des questions sur la Seconde Guerre mondiale et poser des questions pour obliger à ce qu'un certain nombre d'enfants mettent de l'ordre dans leur tête. Donc on est bien sur non pas de l'enseignement systématique, mais une clarification. Mais on ne peut pas choisir le moment où on fera ça, puisqu'on est dans l'émotion et il faut mettre de la réponse à l'émotion. Je me souviens d'un autre moment où, oui, j'ai une petite chose que je faisais, alors ça peut-être c'est la chose la mieux que j'ai faite. Tous les jours il y avait une date et je mettais un événement anniversaire parce que j'avais récupéré des vieux agendas. Alors, justement, comme on met aujourd'hui, vous savez, les dates des saints. Alors là, c'était l'anniversaire de l'enterrement de Victor Hugo. Alors, on racontait des petites choses. Des fois, ça durait un bon moment pour changer beaucoup de choses. Des fois, ça durait très peu de temps. Et il y a eu des petits Portugais qui m'ont dit « Madame, pourquoi vous ne mettez jamais des saints ?» Et on a eu toute une discussion sur pourquoi, alors que dans le calendrier, il y a des saints, à l'école, quand on met des anniversaires, ce n'est pas des saints. Et il me semble que là, pareil, ça ne s'est fait que parce que quelqu'un a posé la question et... j'ai dû répondre. Il y a eu, on était en 84, en novembre, il y a eu la fin de la dictature au Brésil, et Tancredo Neves a été élu président de la République, et en même temps il est mort. C'est-à-dire qu'au moment même où il a été élu, immédiatement il a été presque tout de suite dans le coma, il y avait, tous les Brésiliens faisaient, mettaient des bougies, etc. Et il y avait beaucoup de cinq enfants portugais dans la classe, donc, et ils se sont mis à parler de ça, et du coup, on a suivi toute la question de est-ce que la mort de Tancredo Neves, ça serait le retour de la dictature, certains le pensaient, ou est-ce que ça serait la continuation du retour de la démocratie au Brésil, et pourquoi on devait plutôt être content quand les militaires n'étaient plus au gouvernement. Voilà une question qui me paraît typique d'une question qu'on peut se poser, mais qui n'a pu se composer que parce que, je dirais, j'étais obligée, je me suis sentie obligée par les moments. Et je me demandais qu'est-ce qui fait que je me suis sentie et que j'aurais eu 20 ans, et pas 40, parce que j'étais une vieille gymnastique. Je me disais, en démarrage de sortie de l'UFM, j'aurais 25 ans, je crois que je n'oserais pas faire ça.
Non, mais il n'ose pas faire ça.
Voilà. Et ça serait normal. Et donc, je me suis sentie d'une certaine manière, du fait de ma maturité ou de mon âge, là où j'avais fait des progrès, ce n'était pas sur l'enseignement de l'histoire, mais c'était sur ma capacité à me sentir suffisamment à distance, ou cultivée, je ne sais pas comment il faut dire, pour pouvoir accepter des prises de parole sur des sujets qui auraient, à d'autres moments, m'auraient embarrassé énormément si j'avais été plus jeune. Alors voilà, je vous donne cette... J'ai fait aussi des choses en histoire, on en reparlera peut-être dans la conversation, mais c'est là-dessus que j'aimerais que vous aussi, vous essayiez de parler. C'est quand vous pensez, d'une part, à votre enseignement de l'histoire, qu'est-ce que vous avez fait dont vous avez le sentiment que ce matin, on n'en a pas rendu compte, parce que peut-être on ne peut pas en rendre compte de manière rigoureuse. Et d'autre part, est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas un enseignement ou une éducation à la dimension historique de nos sociétés qui, dans l'école primaire, peut passer aussi énormément par d'autres modes d'intervention, mais qui ne sont pas programmables, donc qui ne sont pas évaluables, et qui, troisièmement, dépendent énormément de sa propre maturité par rapport à notre vie de civique, et qui fait qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a 25 ans ce dont est capable quelqu'un qui en a 40, ou qui en a 50, et puis voilà. Alors, à vous.
Moi, c'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de cycle 3, et j'ai donc enseigné l'histoire à des CM1 de 87 jusqu'en 97-98. Je me suis tout à fait retrouvée dans les 10% de gens qui faisaient des sujets d'études 2-3 par année, plus quelques événements ponctuels comme tu les as évoqués. Et en discutant avec des collègues conseillers pédagogiques, je me demande si 10% c'était suffisant, parce que déjà, sur pratiquement 8, on était 3-4 à avoir fait ça. Mais est-ce que c'était aussi l'année qui voulait ça? En tout cas, ce que je sais, c'est qu'après...
Les gens qui sont venus conseillers pédagogiques.
Voilà, les parents représentatifs. On n'est pas représentatifs, parce que moi, ce qui me motivait dans ce genre de pratique d'enseignement, c'est que je n'avais pas de document d'accompagnement. pas de guide, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire. Je lisais, et bon, je travaillais avec un inspecteur qui me disait qu'il faut déjà avoir les savoirs savants pour pouvoir enseigner. Alors, je lisais beaucoup, mais quoi lire ? Quel guide me disait ce qu'il fallait lire ? C'est comme ce matin, et c'est pour ça que je remets un peu ça sur
le tapis,
excusez-moi l'expression, c'est comment un enseignant qui n'est pas spécialiste, qui n'a pas de savoir savant, peut enseigner l'histoire s'il n'a pas un guide ou quelque chose. Les outils, n'importe quel charlatan va nous proposer des outils et on va l'internet, à ce moment-là on va sur internet et on peut trouver tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui nous permet d'avoir le choix ?
Vous me donnez un exemple des exemples de thématiques traitées 3 ou 4 fois par an. Bon. Parce que tant qu'il n'y a pas d'exemple, on ne comprend pas. Combien derrière les choix, par exemple.
Eh bien, j'ai travaillé sur la préhistoire très longtemps.
Oui. Là, vous interviendrez parce que moi, je peux dire pourquoi il y a
eu un scandale.
Alors là, je peux dire autant pour les enfants.
Je peux rougir jusqu'à la racine de mes cheveux, mais...
Non. En plus, je vais vous dire, ça va revenir. Hein, parce que si la thèse de la disparition de l'homme de Néandertal... qui est en train de se développer et qui va donner lieu à des séries télévisées se propage, et qui est que si la race humaine de Néandertal a disparu, c'est parce qu'ils étaient des pacifistes et qu'ils ont refusé d'exterminer leurs ennemis. Je peux vous dire que ça va revenir sur le tapis.
Question. Il y aura une demande sociale.
C'est promis un grand succès. Bon, alors voilà, l'espoir.
La préhistoire, la révolution, le siècle des Lumières, et puis la guerre de 14-18, parce que là où j'enseignais, il y avait un musée mémorial. Plus le canal du Gé, enfin bref.
Voilà, des choses liées
au petit patrie.
Il y a d'autres gens qui se reconnaissent dans ce...
Tu faisais des thèmes... séparés comme ça, des sujets
de vie. On travaillait 3 semaines ou 4 semaines.
Est-ce qu'il y avait une progression de.
Alors, j'étais en CM1. CM1, CM2, ça veut dire que je gardais mes élèves d'une année sur l'autre, donc ils restaient 2 ans avec moi. Et la programmation, qui ne s'appelait pas programmation à l'époque, enfin moi j'en croyais, c'était progression d'ailleurs, je crois bien, la programmation, elle était faite effectivement. Parce qu'on prenait des ouvrages d'histoire avec les élèves et qu'on regardait ce qu'ils avaient envie de faire.
Et un thème, ça durait combien de temps ? Par exemple.
Non, mais parce qu'il n'a pas visé.
Ça peut durer un trimestre. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur.
Ah, mais on allait dans toutes les directions. Mais je ne suis pas représentative. Hein. Ouais.
C'est la suite de l'éveil.
87 à 97.
C'est ça, c'était en fait.
Programme chevènement.
Oui, c'est-à-dire complètement à contre-pied des programmes chevènement.
Voilà, ça confirme complètement parce que je ne regardais pas le. Et mon capital, je l'ai passé en histoire.
Très bien.
Ah oui, parce qu'elle est là.
Ah oui, non mais bon, on n'a pas eu de discussion sur la légitimité de cet enseignement au moment de l'oral du capitaine.
Oui.
Non, les programmes disaient quand même, à l'intérieur de chaque période ou domaine géographique, les sujets d'études permettront aux élèves d'effectuer un travail
approfondi.
Les instructions prévoient 4 ou 5 sujets d'études par an, dans la limite de 6 à 8 heures chacun. Oui. On veillera à ce que le temps consacré au sujet d'études n'excède pas la moitié de l'horaire total consacré à la discipline.
Oui, alors
c'est
bien sur la
question.
Où elle était totalement à côté.
J'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas à faire le choix de s'arrêter. De m'arrêter.
Bon, est-ce que quelqu'un veut confirmer, réagir?
Oui, moi je confirme complètement. Donc moi c'était dans les années 90. Je dirais qu'on a été aussi. Enfin, moi j'ai le sentiment d'avoir été. Formaté par, c'était la dernière année avant que les écoles normales ne deviennent l'UFM, et où moi qui étais plus qui était issu d'une formation scientifique.
Deux sciences.
Je dirais que j'ai découvert effectivement à l'école normale une autre manière de comprendre l'histoire et ça m'a plu. Enfin, ça m'a plu. Et je crois que j'ai été conquis par cette logique des sujets d'études, etc., où je m'y suis complètement retrouvé. Pour ça, je crois qu'il y a une relation directe en fait, entre entre des choix pédagogiques que l'on va opérer, que l'on va essayer de mettre en œuvre, et qui nous correspondent quelque part. Je crois qu'on ne va pas enlever cette... il est difficile de gommer toute cette dimension humaine de l'enseignement, où tant que des enseignants, et heureusement que des enseignants feront cours à des élèves, il faut que chacun s'y retrouve. Il faut qu'il y ait un rapport gagnant-gagnant. Et je crois que c'était complètement là-dedans. Alors moi, l'époque des sujets d'études, ça m'a complètement conquis. Par contre, effectivement, ce matin a été utilisé le terme d'îlot de connaissances. Je crois que j'étais complètement dedans. C'était des îlots de connaissances complètement isolés les uns des autres, avec des communications entre eux qui, à mon avis, étaient assez inexistantes. Par contre, effectivement, je crois que c'était les contenus qui étaient vraiment, considérés après la démarche. Quoi. La démarche, c'était vraiment de conduire les élèves à apprendre à analyser, à comprendre, de s'approprier des documents, d'essayer d'en tirer quelque chose. Je crois qu'on était complètement sur la démarche. Bon, et sans doute de manière.
Mais la démarche avec du matériau.
Oui, et puis complètement. Des documents.
Ah oui, oui, c'est ça. Complètement.
Des vrais documents.
Et ces choix, ces partis pris. Lorsqu'on n'est pas expert de la discipline, on est tout à fait.
Tout à fait. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas lui-même
je suis absolument pas historien. Et j'ai dit là, d'une part, je prenais goût, et puis d'autre part, je pense que.
J'apprenais.
Oui, et puis comme enseignant, j'avais aucun mal à les piloter. Ce qui n'est pas le cas de l'histoire racontée. Moi, j'aurais été dans l'incapacité. D'aborder l'histoire sur par l'entrée du récit. Parce que ma culture m'aurait fait défaut à ce moment-là.
Martine.
Parce que moi, j'ai enseigné l'histoire par le récit et par la réalité locale. C'est-à-dire que je me suis toujours appuyée.
C'était où ?
En CM ?
Non, mais le lieu de la réalité locale, c'est quelle localité ?
Ah ben c'est le pays de Montbéliard. Donc j'allais à la citadelle de Belfort pour la guerre de 1870.
Ah oui, là on peut faire quelque chose. Hein.
Les usines Japy pour le 19e. Je veux dire, j'ai toujours essayé de m'appuyer sur quelque chose de local parce que je le connaissais bien, je l'appréhendais bien et je pouvais en faire le récit. Mais je rejoins tout à fait ce que vous disiez par rapport au fait que quand les enfants vous emmènent dans une direction que vous n'avez pas du tout maîtrisée, ce que je constate chez les jeunes collègues, c'est qu'ils remettent à plus tard, hein, parce qu'ils n'ont pas en capacité de le faire. Hein. Et puis j'aurais quelque chose à ajouter aussi, surtout par rapport à ce que je constate maintenant, c'est qu'en termes de connaissances, les PE2 sont très très limités. Mardi, on pouvait aller visiter la Bastille. J'ai assisté à une séance d'histoire, on pouvait visiter la Bastille. En termes de connaissances, c'est effarant. Wagram n'est pas une victoire. Et j'en ai comme ça tout un tas d'exemples. Édifiant.
Oui, mais quand vous dites ça, on évalue les effets de notre enseignement. Quand on retrouve les jeunes dans cet état.
Ah, mais de l'enseignement du second degré.
Non. Ah, non, de tout le monde, du primaire jusqu'au secondaire, puisque les jeunes qui arrivent, qui sont PE2 maintenant, ce sont les élèves.
Mais peu importe, il faut savoir, à minima, ils sont tellement peu sur deux, quand ils. Je veux dire, à minima, on du contenu. Et puis à minima, on va chercher un livre du maître, alors qu'on remette au lendemain ou qu'on remette à la séance suivante, ce que l'on ne maîtrise pas bien, c'est tout à fait honnête, hein, je veux dire. Et puis quand on a l'inspecteur en face de soi, c'est sûr que c'est la démarche qu'on va adopter, parce qu'on est au moins bien sûr. Mais je veux dire, ça me pose question.
Oui.
Moi, je vais essayer de continuer la phrase chronologique.
Oui.
Commencer par
les plus jeunes.
Voilà, par mes collègues. Donc, moi, je suis après, le cran d'après, donc
génération UFM.
Génération UFM. Génération UFM.
Les combattants de l'an 2.
Voilà, complètement. Donc, et l'an dernier, encore en juillet, j'avais encore un cycle 3. C'est mon premier poste de conseillère pédagogique. Donc, mes pratiques, elles sont très, très récentes. Donc, j'ai commencé l'enseignement de l'histoire avec je prends un document qui vont illustrer mes propos, on répond aux questions, et voilà, et c'était vraiment tellement pas satisfaisant. Et comme parallèlement, il y avait tout la mère à la pâte qui se mettait en science et toute la démarche scientifique qui se mettait en place, du coup, j'ai essayé de prendre le contre-pied en me disant cette démarche-là, je dois pouvoir essayer de la mettre en place en histoire. Donc là, j'ai découvert les livres d'Alain d'Allongeville qui, du coup, m'ont vraiment confortée dans cette pratique-là. Mais je me suis retrouvée, du coup, et là, je rejoins entièrement mes collègues avec des séances qui me prenaient beaucoup de temps. Parce que rechercher partie de situation problème, c'est
très long.
Chronophage, voilà. C'est très, très long. Et du coup, forcément, les programmes, effectivement, on passait beaucoup de temps sur la préhistoire. Et puis après, on avait du mal aussi à avancer. Et là, je suis saisie par le fait que ce qui est proposé par le rapport de l'IGEM de 2005, moi, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi l'inspection générale fait des rapports dans des conclusions qui paraissent vraiment bien, et puis sur le terrain, j'ai l'impression que le relais se fait pas bien, parce que ce rapport-là, il y a 4 ans déjà. Et j'ai pas l'impression que ce qui était préconisé à l'intérieur soit vraiment arrivé jusqu'au terrain.
Alors les inspecteurs, là, c'est les inspecteurs qui sont mis sur la sellette.
Si, non, par contre,
l'année dernière, cette année, j'ai fait le relais et puis j'ai cité les conclusions du rapport de l'inspection générale et on a travaillé sur les programmations spiralaires. Effectivement, oui, je suis d'accord avec vous.
Voilà.
C'est
au bon moment de la circo
et
des
effectus. Moi, je suis d'accord. Je crois qu'il n'y a pas. Les relais ne sont pas suffisants.
Je suis peut-être un peu.
Pour revenir à mes expériences d'instituteur, je me retrouve bien dans ce que vous décrivez là. En même temps, moi, j'ai beaucoup d'interrogations parce qu'il y a aussi tout le passé que je traîne derrière de mes expériences d'élèves. Et j'ai des grands souvenirs de cours d'histoire où on passait du temps devant une gravure et qui nous a marqué. Qui nous ont construit des repères historiques. Et en même temps, des enseignants qui savaient utiliser le récit historique et qui savaient raconter des histoires. Alors j'en vois encore des enseignants qui savent le faire.
Mais
comme vous disiez, je crois qu'il y a la question de la maturité. Et au milieu de tout ça, je vous donne un peu ça en vrac, je m'en excuse, mais dans nos discussions, il y a un mélange entre le savoir et le savoir-faire. La culture commune, on en parle dans le socle commun, se construire une culture commune, et puis un travail de pseudo-historien à travers des sujets d'études qu'on veut fouiller, on donne des documents authentiques, etc. On interroge le document, il y a des savoir-faire de pseudo-historien que l'on cherche à construire, et puis en même temps des repères historiques qui se construisent pas. Et ça, je trouve qu'il y a des gens qui savent faire, puis d'autres qui ne savent pas faire. Mais pour reprendre la question des relais, non. Je suis persuadé qu'on ne joue pas les relais nécessaires. Et avec tout ça, moi maintenant je suis dans l'adaptation scolaire, c'est encore pire. Parce que la prédominance de la maîtrise de la langue est tellement forte. S'il y a quelque chose qui passe à la trappe, c'est l'enseignement de l'histoire, hein. C'est pas autre chose.
C'est pour ça quand même.
Alors, si on peut aller vers des perspectives, et là j'en ai quelques-unes, j'ai vu à la marge, je dirais, je vois de jeunes enseignants qui arrivent sur le métier avec d'autres approches qui prennent en compte les nouvelles technologies. Alors là, on a peut-être aussi d'autres choses qui vont émerger, qui sont à travailler, à mon avis. L'utilisation d'Internet, de supports audiovisuels, oraux, etc., qui ne sont pas inintéressants. Et il y a peut-être une nouvelle méthodologie qui va émerger.
Je t'en vois beaucoup qui sont efficaces.
Non, je dis à la marge. Et dans l'adaptation scolaire, c'est vraiment extrêmement réduit, parce qu'encore une fois, ce qui est essentiel, c'est la maîtrise de la langue. Et on passe. Alors, on a certainement des choses à reprendre dans ce qu'a dit Philippe Claus ce matin, hein, sur l'écrit, sur la place de la maîtrise de la langue en lien avec l'histoire. Et, bon. Mais voilà, moi je crois qu'il y a un mélange de tout ça aujourd'hui, avec des enseignants qui savent utiliser le récit, d'autres qui utilisent bien le document, mais en même temps, on n'est pas clair. On n'est pas clair.
Oui.
Non, c'est une question, mais c'est peut-être prématuré. Entre ce que vous avez fait, comme vous enseignez, et ce que vous voyez faire,
voilà,
quand vous allez voir les enseignants, est-ce que vous voyez quand même de temps en temps des gens qui traitent le programme, je veux dire, qui traitent au moins une partie des épisodes qui, dans tout ce programme de cycle 3, sont listés ici. C'est-à-dire des gens qui commencent par la préhistoire ou pas par la préhistoire, qui achèvent avec la 5e République, disons, et qui ont parcouru un certain nombre des étapes qui sont listées par les programmes.
Oui. On voit ça dans les traces écrites, dans les cahiers. Soit on les voit, auquel cas c'est valide, soit on ne les voit pas, auquel cas on les interroge.
On interroge les enfants, les instituts.
Non, les enseignants.
Et ils disent oui, on l'a fait.
S'il y a des traces dans les cahiers.
Le problème, c'est.
C'est la seule mesure qu'on ait. Voilà. C'est la trace dans les cahiers.
Alors, question complémentaire, est-ce que les sujets d'études qui ne sont plus explicitement inscrits dans les programmes, est-ce que ça existe toujours?
Peut-être sur les études.
Si, mais on ne voit pas ces personnels-là, finalement, enfin, à part les inspecteurs, nous, on ne les voit pas. Donc, parce qu'il y a des adultes, on voit les nouveaux arrivants, les jeunes. Donc, eux, non, il y a plus de questions.
Si, on les voit parce qu'ils n'utilisent pas des manuels récents, ils utilisent des manuels anciens. Et puis qu'ils reprennent cette méthodologie sans prendre en compte les nouveaux programmes. Et ça peut arriver.
Chez les jeunes,
petite parenthèse par rapport à la prégnance de la maîtrise de la langue. Bon, on en revient un peu toujours au même sujet, mais les programmes 2002 différenciaient bien pour chaque discipline le lire, dire, écrire. Et du coup, comme ça apparaissait clairement, ça obligeait un petit peu quand même les gens à se dire « Tiens, je suis en histoire, mais j'ai un objectif d'écrit ». Et là, comme maintenant on n'a plus que le petit contenu des points forts à traiter en histoire, ben, voilà, ça passe à la trappe alors que c'était quand même bien mis en avant sur les programmes de milieu.
Et d'ailleurs, nous, enfin, moi personnellement, en tant que conseillère pédagogique, je vois très peu de séances d'histoire.
Ah si,
je vois des maths et du français de façon quantité.
Isabelle et puis mon voisin qui s'appelle Franck.
Alors. Donc moi, c'était pour rebondir sur le propos de monsieur, c'est l'apport des nouvelles technologies. J'ai vu une séance d'histoire, mais pas chez un T1 ni un T2, chez un ancien, je lui ai demandé une séance d'histoire avec un tableau interactif. Et là, je pense que l'apport de ces nouvelles technologies va être très intéressant, parce qu'il y a eu un document
projeté devant tout le monde.
Projeté devant tout le monde, c'était le portrait de Louis XIV. L'enseignante étudiait les signes de la royauté à partir de ce document. Et contrairement aux jeunes où je vois du zapping avec une carrière de documents, il y avait un seul document avec un réel échange des élèves sur ce travail-là. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui doit être travaillé dans les IUFM ou les universités.
Les lieux de formation, on dira. Il supposait que ça existe. Voilà. Oui, alors, Franck, d'abord, et puis on reviendra après.
Moi, en tant que enseignant du second degré, formateur depuis 6 ans des premiers degrés, ce qui est remarquable, c'est que dans la pratique, au départ, ils essaient de faire comme on leur a appris, c'est-à-dire de travailler sur le document, comme tu le disais, et ils n'y arrivent pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 4-5 ans, quand on les revoit, puisque moi c'est une petite académie, donc je connais bien, même si les distances sont difficiles, ils mettent en place d'autres stratégies. Et j'écoutais ce que vous disiez, vous, en tant que formateur de sciences, vous n'êtes plus dans telle stratégie. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de montrer un éventail de stratégies qu'ils puissent s'approprier par rapport à leur propre cursus. Il y en a qui vont me dire « Ah oui, le récit, ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai été frappé, j'ai eu des maîtres qui m'ont raconté. » Et on sent bien qu'eux, ils pourront raconter. Il y en a d'autres qui vont me dire « Ah non, moi, c'est la situation problème. Ah, ça, c'est super. Oh, vraiment, j'ai jamais fait ça. » On va leur montrer un jeu. « Ah oui, on va mettre des gens en place, des jeux de rôle. Ça, ça va marcher parce que lui, il a fait peut-être du théâtre ou que sais-je encore. » Et la grande différence que moi, j'ai trouvé entre le secondaire et le premier degré, je pense que c'est ça qu'on doit, à mon avis, développer. Et c'est ce qui apparaît dans une enquête que j'ai faite en bref, c'est que dans le premier degré, ils peuvent, vous pouvez faire de la transversalité. Vous parliez du temps, mais vous pouvez prendre le temps. Alors dans le second degré, on est bloqué, on a des horaires, machin, enfin bref. Et c'est ce qui se passe quand, en effet, le jeune réussit à se détacher un moment de la formation, de ses modèles pour créer son propre enseignement, celui qui lui correspond. Et moi, je vois des jeunes qui ne font pas de l'histoire, en fait. Ils ne font pas d'histoire, ils font un autre truc, ce n'est pas de l'histoire. Mais dedans.
C'est pas encore l'histoire.
Non, ce n'est pas encore l'histoire, ça n'a peut-être jamais de l'histoire.
Non, mais pour eux, non. Mais...
Parce que je vois les mêmes choses que vous. Hein. Bon,
ouais. Non, mais...
Date à moins 500, c'est après Jésus-Christ. Enfin, difficile. Ouais. Mais il faut quand même de l'histoire, parce qu'ils ont trouvé une entrée qui leur plaît. Ça peut être l'éthis aussi. Et je pense que la richesse du premier degré, c'est ça, et la possibilité de pouvoir ouvrir vers d'autres disciplines, s'appuyer sur d'autres disciplines.
Parce que je voudrais faire quand même un petit point sur le problème des transformations des finalités de l'enseignement de l'histoire à l'école. Élémentaire, à partir d'un moment où elle n'est qu'élémentaire. C'est-à-dire où on est sûr qu'après, ils devront avoir des profs d'histoire pendant les 4 années au moins de collège et les 3 années probablement de second cycle, même s'il est technologique, il y aura de l'histoire. Donc on pense qu'ils auront de toute façon, pendant 7 ans, affaire à des spécialistes. Donc la question, elle n'est plus du tout de constituer de la même manière qu'avant le petit bagage, puisque le petit bagage, il devait être celui qu'ils liraient toute leur vie, parce qu'après ils sortiraient de l'école et ça serait terminé. Mais maintenant, non seulement il y a le collège et le lycée, mais en plus, il y a la télé, il y a les médias, il y a Internet, il y a toute une série d'autres choses. Et peut-être que ce qui est en train d'émerger dans ces modes de fonctionnement, là, peut-être faudrait reprendre, je voudrais lire mieux ce que on nous a dit ce matin pour avoir le temps de me l'assimiler, c'est de penser, qu'est-ce que les instituteurs, ou les profs d'école, pardonnez-moi, mais pour moi, c'est un nom noble, sont en train... en essayant d'être les interfaces entre ce que les enfants leur apportent dans l'école, ce que le milieu environnement apporte dans l'école, ce que les IO en même temps, par ailleurs, leur demandent quand même de faire. Qu'est-ce que c'est ce mixte qu'ils sont en train d'inventer qui en fait tient compte de modifications très profondes des modalités d'acculturation dans l'école primaire, et dont je trouve que les instructions officielles ne tiennent pas suffisamment compte. Moi, quand je regarde, depuis que j'ai été au charbon, je sais que ces IO sont infaisables. Sauf à faire, parce que, puisque même, ça c'est Brigitte Dansel qui m'a appris, Brigitte Dansel a travaillé avec les copies de certificat d'études pendant les rares années, 4 années, où le certificat d'études avait mis des épreuves écrites obligatoires à l'histoire, géographie et sciences, on tirait au sort, parce que les inspecteurs avaient très bien compris que si ce n'était pas évalué à l'écrit au certificat d'études, ça deviendrait rien du tout par rapport à dicter problème. Il faut bien voir. C'est-à-dire que, c'est sûr qu'à partir du moment où on passe le certificat d'études, prioritairement, il ne faut pas avoir 0 en orthographe. Les instituts ne sont pas fous. C'est pas l'histoire qu'ils vont faire d'abord, même si tout le monde dit que c'est ça qui est essentiel, c'est tomber le citoyen. Donc pendant 4 ans, on met l'histoire, géographie, alors on tire au sort en début d'examen, est-ce que ça va être science ou est-ce que ça va être histoire géo ?
C'est comme un entrée.
À l'UFM. Et alors, elle a calculé que, étant donné qu'à l'époque, on est sur un enseignement qui est encore beaucoup concentré, c'est-à-dire que les élèves réentendent chaque année les mêmes leçons des origines à nos jours, en gros, avec les récitations, les contrôles, le moment où le maître fait lire, dit oralement la leçon, le moment où après on lit le texte sur le drame, le moment où on fait le résumé, le moment où on copie le résumé, le moment où le maître interroge le lendemain et fait dire le résumé, chaque élève a entendu 40 fois chaque leçon. Pendant sa scolarité, avant le certificat d'études. Et quand elle regarde les copies de certificat d'études, elle voit que
Pour être précis, jusqu'en 1923, vous avez raison.
23, voilà.
Mais à partir de 1923, c'est le moment qu'elle étudie, c'est plus concentrique.
Non, mais ça continue de l'être dans beaucoup d'endroits, en particulier dans la Somme.
Oui, parce que pour la raison que j'entends depuis un bon moment, on utilise des vieux manuels, on fait ce qui est prévu par les instructions précédentes, on fait ce qu'on a appris à faire, et ainsi de suite. Il y a vraiment c'est pas que les gens ignorent parce qu'il y a une espèce d'inertie.
Mais il y a peut-être aussi tout simplement des contraintes de situation. Comme je vous disais tout à l'heure que moi je suis d'une école rurale à classe unique, dans une école rurale à classe unique, jusqu'aux années 70, la maîtresse ou le maître, dont je tout le temps les femmes,
faisait du concentré.
Forcément, puisqu'elle faisait, elle n'allait pas faire quatre leçons d'histoire pour les quatre niveaux différents. Elle faisait une leçon d'histoire pour tout le monde, avec des niveaux d'exigence individualisés. Les CP écoutaient, et puis ils faisaient ça. Les CE, ils copiaient une ligne, et puis ils faisaient ça. Et puis les cours moyens et les fins d'études, ils avaient à répondre à une interrogation leur mien. Donc c'était la même leçon pour tout le monde. Donc ça part, alors à partir de 58, la France bascule plus urbaine que rurale. Il faut quand même bien voir que ces fameuses IO de 23, qui sont des IO comme le secondaire, c'est-à-dire qui échelonnent, et on ne reprend pas ce qu'on a fait l'année dernière, ne sont pas mis ne passent pas dans la réalité de l'école rurale, pas parce que les instituts sont dérogatoires, mais parce que les conditions matérielles de réalisation ne sont pas réunies. D'accord ? Et les inspecteurs acceptent. Et pour la Somme, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand elle fait, Brigitte fait son enquête sur la Somme, donc c'est 26, 27, 28, je crois. Après, c'est fini, on revient à l'oral parce que c'est trop coûteux.
Ils ont ressassé.
Voilà, on se rend compte qu'on en présente moins de la moitié au certificat d'études, donc c'est déjà le meilleur 50%. Et sur ces 50%, il n'y en a que 25% qui peuvent dire.
Et le pire, c'est que ceux qui font le cours supérieur recommencent aussi.
Absolument, en rajoutant la Grèce.
Ils le font en CP, ils le font en CE, ils le font en CM, ils le font en CS.
Donc, si vous voulez, moi, ça quand même pose un problème de fond. Parce que si on se dit, si à cette époque-là, je dirais l'histoire était plus courte qu'aujourd'hui, puisqu'elle avait un siècle de moins. Donc, elle n'avait pas causé les problèmes de Shoah.
Et on ne faisait pas la préhistoire.
Absolument, on commençait la culture. Premièrement, deuxièmement, ce n'est pas l'histoire culturelle. L'histoire est essentiellement une histoire politique et militaire sur la construction de la nation. C'est-à-dire que quand vous regardez dans l'horizon de ce qu'il y avait de l'enseignable en histoire, je dirais que le corpus était infiniment. Alors évidemment, on enseignait la guerre de 7 ans, on enseignait le traité de Westphalie. Moi, j'ai par exemple interrogé une
assistante. On n'était pas obligé, hein, le programme était très court. La Gaule, les invasions, le Moyen-Âge, formation de l'unité française, les grandes découvertes, la Renaissance, la Réforme. Et en cours moyen, la monarchie absolue, la fin de l'Ancien Régime, la Révolution, le Consulat et l'Empire, la Restauration, la monarchie
constitutionnelle. Oui, mais bon, toujours les traités de Westphalie. Alors, je demandais pourquoi les traités de Westphalie. Mais c'est parce que c'est l'Alsace et la Lorraine. C'est-à-dire que des choses qui aujourd'hui. L'Alsace, c'est des choses qui pour eux, quand elle me disait c'est à cause de l'Alsace et la Lorraine, ça veut dire que c'est à cause de la guerre de 14. C'est parce qu'on avait perdu l'Alsace et la Lorraine et qu'on les a re-eus qu'il faut dire à quel moment l'Alsace a été réunie à la France. Et aujourd'hui, moi, si elle ne m'avait pas dit ça, je l'aurais jamais compris. Vous voyez, c'est des choses qui font. Alors, dans cet horizon-là, 25% des élèves avec les différents garçons-filles que nous disait tout à l'heure Michel Saint-Carine-Fournel arrivent à peu près à répondre de manière pas trop minable aux épreuves de certificat d'études. Je me dis, ça valait la peine de dépenser une telle énergie pour faire apprendre. Parce que, évidemment, en certificat d'études, on ne demande pas aux enfants d'expliquer pourquoi la révolution a été magnifique. On leur demande les dates, on leur demande de dire qui sont les gens, des choses qui sont évaluables. Et du coup, on n'est même pas sûr que ceux qui ont bien répondu, on le suppose quand même, mais ceux qui ont bien répondu pourraient répondre, comme disaient les affaires de l'époque, mécaniquement. Mécaniquement. Je me méfie d'ailleurs beaucoup de ça généralement, parce qu'on n'a pas de preuve non plus que
c'est difficile à.
Et malgré ce ressassement éternel de toujours la même chose, hein, malgré
le 1923,
d'après Brigitte Dancet, les résultats n'étaient pas terribles.
Non.
Donc ils étaient passés 10 fois sur le même événement et ils n'étaient pas capables de le créer.
Ma question, c'est est-ce que c'est pas une bonne résistance des enseignants de dire que, puisqu'on ne peut pas passer 40 fois sur la même chose, remplir les IO telles qu'elles le demandent, c'est-à-dire de descendre le fil de l'histoire.
Même si on ne peut pas passer une seule fois sur la même chose, il ne restera pas grand-chose non plus. Il vaut mieux prendre les blocs
et les approfondir.
Oui, mais c'est.
Alors la question, elle est là. Vous sentez comment on devient un
la liberté pédagogique fait que.
Mais vous voyez même
Oui, mais l'enjeu de cette liberté pédagogique, c'est qu'on a la liberté quand on a un choix de, par connaissance, quand on sait. Mais c'est-à-dire que si on n'a rien, aucune connaissance en pédagogie, on ne peut pas choisir.
Mais vous sentez en même temps le problème qui est absolument terrible.
Mais on choisit la demande, on choisit de répondre à la demande.
Ah oui, mais on fait n'importe quoi, on se maintient et.
Non, oui, alors c'est pas ma parole. Allez-y. Par rapport à ce qui a été dit ce matin sur. On tient compte uniquement de ce qui intéresse les enfants, de ce qui plaît aux enseignants. Ce qui intéresse l'institut. Ça me terrifie, moi.
Oui, ouais. Moi aussi.
Moi, ça me terrifie moi parce aussi. Que, et d'un, c'est démagogique à souhait, et de deux, on a quand même une responsabilité morale, enfin, je pense qu'on a une responsabilité morale, peut-être que ça, je me trompe, à enseigner l'histoire. Peut-être que ce qu'il faut qu'on cherche et qu'on trouve, c'est donner du sens pour que les événements historiques intéressent les élèves. C'est vrai que là, c'est difficile quand on n'est pas spécialiste. C'est vrai que j'ai fait partie aussi de ceux qui se sont noyés dans les périodes. Mais parce que là, je crois qu'on a un problème de curseur. Les périodes, elles ont le même nom de l'école élémentaire jusqu'à l'université. Jusqu'où aller pour traiter la révolution en CM2 et à l'université. Donc peut-être que c'est là où les spécialistes pourraient aider les polyvalents, mais presque, que sont les enseignants, pour essayer de définir des points d'appui. Il y avait eu un essai qui avait été fait dans le document d'accompagnement avec les points forts, en essayant ça, parce que je crois que c'est ce qui nous manque. Sinon, si on part sur l'idée qu'on ne va faire que ce qui intéresse les enfants, sous prétexte que peut-être ils le retiendront, je ne crois pas qu'on bâtira quelque chose.
Oui, alors moi j'aurais quand même un petit bémol sur ce qui intéresse les enfants, parce qu'il faut quand même bien voir une chose. Ce qui intéresse les enfants, c'est ce qu'on rend intéressant. Tout le monde le sait très bien. Il suffit de rendre une chose intéressante pour que les enfants s'intéressent. Donc en fait, ce qui est derrière, ce que les enseignants n'osent pas dire, quand ils disent ce qui intéresse les enfants, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire ce que je suis capable de rendre intéressant pour les enfants.
Ce que je maîtrise mieux, et donc si je me sens mieux dans la préhistoire, je vais y rester.
Alors là, moi, le problème où je vous rejoins tout à fait, qui me fait un grand souci, c'est que vous voyez très bien qu'on entre dans ce que j'appelle le consumérisme culturel subjectif.
Oui. Voilà. Oui.
Et que là, on fait éclater les références communes. C'est-à-dire qu'on vient se trouver exactement dans la même situation que quand on ouvre la bibliothèque, la BCD, en disant, ou dans le secondaire, au moment des programmes de lettres, il y a tellement de choses permises de toute la littérature mondiale, que chacun va choisir ce qu'il aime, ce qu'il sait faire, etc. Et il n'y a plus de référent commun.
Et on fait plus la culture commune.
On n'est plus en train de construire une culture
commune. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une espèce de demi-mesure qui consistera à dire on ne va pas faire systématiquement ce qui plaît aux enfants. On ne peut pas non plus faire, parce qu'on ne sait pas, puis qu'on n'a peut-être pas le temps, on ne peut pas faire tout ce que le programme nous dit de faire. Mais au moins, on pourrait, dans le programme, prendre des choses qu'on a l'impression qu'on maîtrise mieux, les creuser et les faire pour les rendre plaisantes, pour qu'elles intéressent les enfants. Moi, je suis d'accord, il faut leur faire quelque chose d'intéressant et pas forcément répondre à leurs demandes quotidiennes.
Ah, Laurent voulait intervenir et puis de nouveau
François. Donc on ne traitera pas tout le programme, mais on traitera bien une partie du programme de manière intéressante.
On pourrait même aller plus loin et dire qu'on pourrait dire quels sont les points sur lesquels que dans le curseur, on ne pourra pas avoir oublié. C'est-à-dire que même prédéterminé à l'avance, on pourrait aller plus loin. Bon, alors, Laurent.
Moi j'ai eu un cheminement un peu inverse, c'est pas du tout pour c'est pour revenir sur rebondir sur ce sujet, parce que je pense que il y a des éléments d'actualité qui font irruption dans la classe.
Oui,
bon, par exemple, dans les sujets chauds que les enfants n'abordent pas, heureusement d'une certaine manière, mais le conflit israélo-palestinien, tant mieux qu'il aborde pas en classe, je dis. Mais moi, quand j'ai été confronté au bombardement, en 2001, avec ça dans la classe ou à la guerre d'Irak, ça, c'est venu. Donc, il y a ce que j'appelle un élément d'intérêt qu'on doit prendre en compte. Et après, c'est comment le prendre en compte. Alors, je m'en suis pas trop bien tiré pour les tours, parce que c'était compliqué, la guerre du terrorisme. Pour l'Irak, c'était plus simple avec la Mésopotamie, en montrant que finalement les chars ne faisaient que fouler quelque chose de très millénaire et tout. Ça allait, j'ai pu arriver à tirer mon épingle du jeu, à recentrer l'intérêt sur l'histoire. Mais on est toujours un petit peu sur des choses comme ça. Alors, moi, je dis que j'ai eu un cheminement à l'inverse parce que je suis resté longtemps sans faire classe, puis j'ai repris la classe. Donc quand j'ai repris la classe, c'était un petit peu avant les nouvelles instructions. Et moi, quand on m'a annoncé le livre de Ebrard et Falaise, j'ai dit c'est ça qu'il faut absolument, j'étais d'accord et tout. J'ai dit allez en avant, on l'a commandé à la collection, vous allez voir ce que vous allez voir. Je suis au cycle 3, puis vous allez voir ce que vous allez voir, le récit de l'histoire au niveau de Falaise et de Ebrard. C'est un livre passionnant, le livre du maître est un outil remarquable.
Nouchka Courbet, un site, j'ajoute quand même.
Hein?
Et Nouchka Courbet aussi.
Voilà, mais absolument pas praticable.
La femme qui est un site.
Absolument pas praticable dans une classe lambda. C'est-à-dire, on peut pas. Ça fait pas le compte du récit, quoi. On n'y arrive pas, je préfère le dire. Je l'ai déjà
trop dit. Difficile.
Trop élevé encore. Ouais, hein. Ça fait pas récit au sens. Récit pour les enfants et cette notion de récit, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors moi depuis je suis tout à fait dans cette idée-là. Alors je ne parlerai pas de thème d'étude, mais pour ce qui est des récits, il me semble que les pistes, c'est moi les pistes qui sont les plus productives, c'est associé à un travail qui est fait en classe, c'est les films essentiellement.
Les films, oui.
Il y a des filmographies à faire. Si vous passez. On peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même pas normal que les enfants n'aient pas vu Indigène. Je pense que moi j'ai réussi quelque chose de. Oui, mais il y en a, à mon avis, il y en a occupé une année scolaire. Hein. Il y a celui qu'on va voir ce soir encore, que des collègues m'ont dit, tu sais, on devrait quand même surprendre une fois, mais moi je me suis permis avec des CM de leur passer le film de Benigni, La vie est belle, lien. Avec une exposition de l'association des déportés juifs organisée en lien avec la SNCF, ou ce qu'il y avait, alors que j'y allais pour la déportation des enfants juifs. Moi, dans mon idée, c'était relier ça avec Isieux. Là, je me disais, là, des bétons armés. Et puis, alors, finalement, il n'y a qu'un truc qui a marqué les gamins, c'est quand le déporté leur a montré son numéro. Alors, ça, on a parlé peut-être de ça après, un tatouage, et le reste, c'était très secondaire. Quoi. Donc, voilà, c'était des liens. Indigène, j'ai pu le relier avec il y a un parcours. Alors moi, c'est maintenant du coup prendre en compte l'actualité, réussir un peu à l'anticiper, mais c'est cette histoire de temps et d'espace qui moi me paraît. Je suis d'accord avec l'idée. Alors préhistoire, on n'est pas vraiment dans l'histoire. On est dans quelque chose qui donne un maximum de repères de temps avec le temps et l'espace. Enfin, moi, je sais jamais de séparer les deux. Et je m'appuie sur, puisque j'ai le sens d'habiter une grande cité, la Stéphocéenne, Marseille, j'essaie de m'appuyer au maximum. C'est une remarque que j'avais. Mais c'est facile à Marseille, hein, je pense que. Il y a des villages. C'est facile partout. Mais ce que je veux dire, après je termine, c'est simplement, j'essaie de mettre en perspective, moi, ce que j'appelle une trace historique. Par exemple, si vous faites un parcours qui va du Vieux-Port à Notre-Dame-de-la-Garde, vous allez passer à un moment donné à côté d'un char américain et d'une plaque commémorative des tirailleurs sénégalais. Cette juxtaposition, elle est.
C'est donné à lire.
C'est fabuleux parce que on résume finalement ce qu'a été le débarquement. Après, on peut tirer une pelote et puis y compris avec un public scolaire comme celui que j'ai. Voilà. Et moi, j'essaie à travers des traces vraiment d'ancrer, et j'essaie de le faire avec les formateurs. C'est ça qui permettrait de
donner, je dirais, le soubassement sur lequel peut se construire l'enseignement de l'histoire systématique des profs d'histoire de secondaire. C'est-à-dire que c'est faire en sorte que un récit historique de spécialiste prenne sens et un terreau déjà.
Oui, mais il est confirmé. Comment ils font les jeunes collègues?
Les jeunes collègues, ils ne savent pas encore.
Moi, ils y viennent, ils accrochent, hein, il y en a qui accrochent.
Oui, non, mais
parce que je suis maître formateur maintenant, donc je propose de le faire partager, mais faut pas, au début, on a d'autres priorités. Hein. Il y a le sport, il y a l'art plastique, il y a la gestion simple de la classe, la discipline dans la classe. Oui, ce que je voulais dire, une anecdote, moi, ça fait 10 ans que je fais des visites, j'en fais à peu près 20 par an, on m'a jamais montré une séance d'histoire. Voilà, donc je ne peux même pas témoigner de ce qu'on fait en histoire débutant.
Moi, je vais juste revenir sur ce fameux référent commun là. Je peux...
Oui, culture commune.
Culture commune dont tu parlais.
Ouais.
Moi, de plus en plus, bon, l'endroit où je suis, mais je ne pense pas que ce soit lié à l'endroit, je pense qu'on est tous pareils. Je pense quand même que je ne suis pas sûr que ce soit le primaire, l'endroit où il va y avoir un référent commun culturel. Moi, je pense qu'en primaire, justement, et nos pratiques le montrent,
le référent, il est local, il est sur des choses qu'on rencontre, il est sur des appels de l'actualité. Ça, voilà, mais localement, quoi. Et ce fameux référent national, eh ben, les profs du second degré, qui eux ont un programme, qui le suivent, qui sont des spécialistes en plus, devraient plus le prendre en compte. Et avec le seul référent commun qu'on devrait avoir, et je pense que les programmes y sont là, hein, c'est la langue. C'est la maîtrise de la langue. Ça, c'est le référent commun du primaire. Après, moi, franchement, le référent. Oh, bon. En plus, je suis en Guyane, donc si vous voulez, le référent commun en Guyane, quand.
Mais vais te dire un truc.
40 000.
Ben, tiens, passe.
7000 km.
Passe l'Oyapock et puis va de l'autre côté au Brésil. Tu verras les Français. Mmh. On les repère immédiatement. C'est ceux qui ont toujours une carte de géographie pour savoir où ils sont.
Non, mais c'est pas lié à ce qu'ils ont fait en primaire.
Et si,
tu peux me dire ce que tu veux, c'est pas vrai.
Pas primaire.
Parce qu'on voit pas le sens d'histoire, mais alors les Français de géo.
Jamais. Ah, moi, j'ai vu des sciences d'histoire, j'en ai vu de géo.
Oui, moi, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Et en même temps, il me semble qu'il y a la question du lien, des causes, des effets. Je pense que quand on est sur des centres d'intérêt, sur des sujets d'études, les liens se font bien parce que, comme vous disiez, le temps et l'espace sont contraints. Et je crois que c'est ce que recherchent les enseignants, c'est de permettre aux enfants de comprendre le monde dans un espace qui est contraint, un espace-temps qui est contraint. Alors que les programmes actuels, vus dans une chronologie et les récits dans leur succession, ne rendent pas facile le lien d'un récit à l'autre. Et tout à l'heure, quand on a parlé de la maturité, de notre maturité, la mienne, je me suis reconnu aussi dans ce qu'on a dit, il faut attendre un certain âge pour qu'on arrive à faire les liens. On parlait du conflit israélo-palestinien, moi je ne sais pas, mais à 22 ou 23 ans, je le maîtrisais nettement moins bien qu'aujourd'hui. Et je crois que c'est parce que les récits qu'on a eus, on a eu beau lire, aujourd'hui ça va mieux parce qu'on a la maturité. Et c'est cette maturité-là que n'ont pas nos enfants qui ne leur permet pas de faire les liens sur les récits qu'on peut leur faire.
Moi ça me frappe surtout sur un point, c'est que souvent... Ceux qui ont le plus de difficultés à enseigner l'histoire en primaire, c'est ceux qui ont fait des études d'histoire. Parce que comme ils ont un savoir conceptuel, disons, relativement élevé, ils arrivent... Enfin, moi, j'en ai rencontré plusieurs... bon, tant mieux si c'est, je me trompe. Très bien. Alors, je retire ce que j'ai dit.
Moi, j'ai l'impression, peut-être je vis sur une autre planète, mais j'ai vraiment l'impression de rencontrer des êtres qui manquent d'une...
Culture de base.
Ah oui, culture de base. Non, mais... Et c'est quoi, quand on leur parle de noyau dur ou de point fort, ben c'est quoi qu'il faudrait, à côté de quoi il ne faudrait pas passer quand on traite du paléolithique? C'est quoi tes noyaux durs? De quoi tu nous parles? J'en ai aussi beaucoup, et de plus en plus, qui s'appuient sur des intervenants extérieurs, pour toutes les disciplines.
Et ça,
il y avait beaucoup de physique, de PS, etc. Mais maintenant, je vois en histoire, parce qu'on a beaucoup de propositions faites par les musées, par les sociétés d'histoire. Moi, je
travaille
sur une vallée minière. Donc les sociétés d'histoire sont très fortes, alors peut-être centrées sur le 19e, hein, puis le 20e. Mais du coup, elles proposent beaucoup de choses, et les maîtres, si j'allais dire, s'y jettent dessus. Hein, mais... Et on en a beaucoup qui font un enseignement comme ça, donc très parcellaire, avec des intervenants extérieurs. Les jeux de commémoration aussi.
Oui, voilà, quand même moi l'histoire.
Peu importe si le 11 novembre
tombe
le 11 novembre, c'est l'abolition de l'esclavage arrive avant, après la guerre.
Mais est-ce que vous pensez que un enfant peut, avant 12 ans, avoir une notion claire de ce que c'est que la causalité historique?
Non.
Parce que Rousseau, lui, disait interdit. L'histoire était interdite.
J'ai compris la causalité en histoire.
Parce que c'était hors de portée des enfants.
Moi, j'ai
on a reposé cette question tout à l'heure, on n'y a pas répondu.
Moi, j'ai un exemple là. Ouais. Hein. Tout le monde, enfin, vous avez dû voir, le nouveau tramway de Marseille. Tout le monde en parle, il est magnifique et tout. Bon. À Marseille, il faut expliquer. On est passé, comment on est passé d'une époque où le Marseillais était, le tramway était le seul moyen de transport,
qui a été
transformé par le tout voiture, et ensuite on a mis le métro, et maintenant on revient à un mixte. Alors qu'à Paris, on a exactement l'inverse, on a eu le métro il y a 100 ans. La causalité en histoire, c'est vachement difficile à défendre. Moi, je me contente de leur dire, voyez, ce tramway tout neuf que vous rêvez d'emprunter, donc on fait une fois, il y a 100 ans, il y en avait déjà un. Voilà. Si déjà ils ont capté ça et que c'est pas le même, aller au-delà.
Moi, la question sur la tradition historique qui m'avait un peu blousée, c'est une fille qui avait 2 ans de retard, qui m'a dit Madame, pourquoi les Japonais, ils étaient avec nous pendant la guerre mondiale et ils étaient contre nous dans la deuxième? Alors, déjà qu'elles disent nous pour dire les alliés. Bon. J'ai dit, faut que je cherche.
Ça, je peux pas avec les alliés en
cas. Et comment ? Vous avez par moment des questionnements comme ça, alors les autres, oui. Tout à l'heure, c'est un sujet formidable. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé au Japon ? Ou est-ce qu'est-ce qui s'est passé chez nous ? Qui c'est nous ? Pourquoi on en a. Et là, il me semble qu'il y a des moments où on sent bien que les enfants affleurent les questions de la causalité historique et mesurent ce que c'est qu'une. Enfin, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Mais là, le point sur lequel on peut être sûr, c'est qu'on ne pourra pas exiger que tout le monde puisse avoir une capacité à répondre de manière rigoureuse à un certain type de questions sur ce point-là et que ça puisse être évalué. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça fasse partie des enjeux de la discipline. Mais c'est des choses qu'on sème, c'est pas encore évaluable. Et je ne suis pas sûre qu'à mon âge, j'ai tout compris de la causalité historique. Il y a un certain nombre de choses qui me paraissent très énigmatique, et je vais vous lire des livres dessus, je comprends pas bien comment ça s'est passé. C'est comme ça.
Ouais. Et puis même quand vous participez, enfin quand vous écoutez une émission historique sur un sujet donné, avec toutes les explications techniques, et même quand on essaie d'avoir une approche pédagogique, hein, quand le présentateur essaie d'avoir cette approche-là, moi je suis comme tout le monde, hein, y a des choses que je saisis pas bien, et j'ai besoin de réécouter, je suis pas. C'est pas ça.
Il y a quelque chose qui est important dans ce qu'on dit là, c'est presque un paradoxe qu'on demande aux jeunes enseignants finalement, parce que vous parliez de la démarche scientifique, on pourrait rapporter ça à la maîtrise de la langue. Tout le travail qu'on demande à nos jeunes enseignants, c'est de faire du lien entre, dans la démarche scientifique, c'est évident, entre leur représentation pour aboutir à des choses dans lesquelles la causalité va avoir une place énorme. Et là, on est en train de dire, pour l'histoire, on met ça de côté, on met la causalité de côté, et l'évaluation, la mesure,
c'est qu'elle n'est pas évaluable.
L'évaluation en histoire va reposer sur des connaissances dont, pour lesquelles les liens vont être mis de côté en partie.
Il n'est pas nécessaire d'avoir de lien.
Mais je veux dire, en termes de métier, alors pour le coup, on va dire aux enseignants, voilà, vous enseignez des choses, des connaissances, des notions, mais le lien, il viendra plus tard, au-delà de 12-14 ans. Il faut peut-être le dire. Moi, je pense qu'on a peut-être intérêt.
Oui, puisqu'on parle d'évaluation, hein, on vient.
Oui.
En quatrième, en troisième, et a fortiori en lycée, l'enseignement, y compris de l'histoire, est largement piloté par l'évaluation. Oui. J'ai l'impression que dans l'enseignement primaire, peut-être en 6e et 5e aussi, il l'est beaucoup moins. Il n'empêche que vous évaluez, enfin, vous voyez des gens évaluer, vous leur apprenez à évaluer. Comment ? Qu'est-ce qu'on peut évaluer ? L'histoire,
puis en primaire, je pose une autre
question. Qu'est-ce qu'on peut évaluer et comment le fait-on concrètement ? La connaissance de fait, ou bien la capacité à avoir une attitude critique à l'égard d'une image ou d'un texte, d'une source quelconque, ou bien la capacité à faire un petit rapport sur une visite qu'on a faite quelque part, quelles sont les formes d'évaluation les plus souvent utilisées ?
Des petites questions à répondre.
Des questions à trous. Oui, moi, c'est ça que j'ai. Alors, moi, j'ai été dans des classes où j'évaluais pas du tout l'histoire. Je regardais les modes de fonctionnement des cahiers, etc. Donc, j'ai assisté et à des leçons d'histoire, parce que j'étais tout le temps dans la classe, donc de temps en temps, il y arrivait qu'il y en avait, donc je les voyais, et des évaluations. Et la chose qui m'a paru l'astuce, enfin, je sais pas, la manière dont les instituteurs règlent le problème du conflit entre ces tensions, entre des choses qu'on fait très manière, mais qui sont très pratico-orales. Hein. Et puis le fait qu'il faut quand même une note, en gros, pour laisser une trace, et que du point de vue de l'institution et des parents et du directeur et de l'inspecteur, on soit là, c'était le plancher, il était un peu de type exercice à trous. Et comme prof d'école normale ou d'IUFM, je trouvais ça très mal. Mais quand je passais de l'autre côté, je me suis rendu compte que c'était pas si bête. Ça dépend comment c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, vérifier que les enfants n'ont aucun problème pour interpréter les termes de vassal, suzerain, féal, de roi, duc, etc. Enfin, ça, les mettre dans un réseau sémantique qui fait que quand ils liront un texte ultérieurement, ils n'auront pas de problème d'interprétation. On appuiera là-dessus et on verra féodalité, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que. C'est pas. Ils auront non pas une définition de féodalité, parce qu'il faudrait qu'ils aient Marx Bloch, c'est beaucoup de hein, mais ils auront au moins une valeur d'usage de ce terme dans un certain nombre de textes, sans trop de difficultés, qu'on ne mettra pas de contresens.
Je comprends bien la maîtrise d'un vocabulaire spécialisé.
Absolument. Maîtrise du vocabulaire spécialisé.
Des repères de noms propres.
Là, c'est pas absurde. Alors après, sur les dates, je pense que la question, moi, j'étais pas du tout d'accord ce matin avec la critique de la frise historique. Bon,
je vois pas par quoi on peut la remplacer.
C'est son dada.
Non, mais c'était que la flèche.
Il y en a qui se vendent. La flèche, on peut discuter. Mais la frise, il est tout à fait contre.
Parce que sans frise historique, je vois pas quel autre outil est susceptible de donner.
En tout cas, dans ma pratique de classe, c'est sûr qu'une des choses qui a le plus servi aux élèves, c'est que toutes les fois qu'on rencontrait en littérature, ils allaient le mettre et disaient ah ben tiens, Molière, il aurait pu parler avec Louis XIV. Voilà. On avait un lieu sur lequel on
pouvait. Est-ce que vous évaluez, ou est-ce que vous voyez évaluer, ou est-ce que vous faites évaluer des comptes rendus de visite, de visite dans un musée.
Non, parce qu'en plus, enfin, moi je
pense. Des choses construites, est-ce que vous. Les constructions des élèves.
Je pense que pour des enseignants, ça ne se situera pas, quasiment pas dans le domaine de l'histoire. Pour nous, ça sera de
maîtrise
de la maîtrise de la langue. C'est-à-dire que si on fait un compte rendu de ce qu'on a vu, etc.
Ça peut être des photos.
Ou un commentaire d'image, on classera plus ça, une interprétation dans l'évaluation de compétences linguistiques.
Si c'est un objet historique, si c'est la visite d'un château fort.
À ce moment-là, interviendra le vocabulaire.
Voilà. C'est un problème chez nous.
Parce que si vous parlez des photos et des reportages, quelquefois on voit dans les classes des restitutions pour les parents, pour les autres classes, un compte rendu de visite où les enfants rédigent leurs commentaires. Hein, et puis organise les
comment dire, en dehors de la vérification de la connaissance de fait du mandaté sur une frise ou pas, peu importe, ce que vous vérifiez essentiellement, ce sont des compétences transversales, langagière, d'analyse d'image, enfin, des choses de ce genre, mais ce ne sont pas des compétences spécifiquement historiques, au sens le plus large du terme.
Sauf à savoir la spécificité du vocabulaire.
Vocabulaire spécifique.
De date, et
de personnage.
Et de personnage, et d'événements.
Oui, non, mais voilà, personnage fait tout s'adapter, d'accord. Là, on est d'accord. C'est spécifique à l'histoire. Oui. Mais déjà, le langage féodalité, on ne parle pas simplement de féodalité amoureuse du Moyen-Âge, c'est passé dans le langage courant. Oui. Une grande entreprise, c'est un côté féodal.
Oui, mais là, c'est vrai.
Après, se pose quand même aussi la question de l'évaluation en général, pas seulement pour l'histoire.
Faut bien préciser, quand j'entends le mot évaluation, je me trompe, parce qu'en fait, je pense que tout le monde évalue tout le temps. Après, si ce que les enfants ont compris, pas compris. C'est qu'on parlait d'évaluation formelle, écrite, notable. Enfin, on peut sommative, c'est identique pour tout le monde.
Qu'est-ce que c'est une évaluation?
Voilà.
Donc, un compte rendu de visite.
Qu'est-ce qu'on dit, difficile de l'opposer à l'évaluation sommative?
Donc, quand vouloir faire
des connaissances.
Excusez-moi.
C'est quand est-ce qu'on met des notes? Quand est-ce qu'on met des notes? Voilà. On va dire les choses grossièrement comme ça.
Grossièrement. Mais quand des élèves font un projet en histoire, un exposé en histoire, en cycle 3, c'est pas. Enfin, j'en ai pas encore vu là, mais ça existait quand même avant. Je pense que là, on peut évaluer quand même la capacité à trier des informations,
à les organiser.
Le maître apprécie
la capacité, il voit s'il a demandé quelque chose de possible ou d'impossible, il voit si le gamin s'est bien débrouillé ou pas débrouillé, qu'il s'est mieux débrouillé que le voisin, donc il évalue informellement. La question c'est, est-ce qu'il en fait un exercice obligatoire pour tout le monde avec une trace qui fait partie de l'évaluation formelle de l'élève. Voilà.
Ça peut. C'est une évaluation sommative de fin de période.
Oui. C'est possible.
Et moi, je vois dans les cahiers d'évaluation, il y a des types exercices à trous, type avec plusieurs réponses, tu choisis celle qui est pertinente pour.
Alors moi, ce que j'ai découvert que je savais pas. Parce que moi, je n'avais pas eu le temps d'apprendre à faire ça, mais je pense que j'aurais assez davantage en cours de récréation, on me l'aurait appris. C'est que les classes où je suis allée, les maîtres faisaient réviser l'évaluation la veille ou même le matin pour l'après-midi. Pour maintenir le fait que tout le monde ait une note, les enfants travaillaient tout seuls sur leur papier, mais on avait mis en avant, juste avant, je dirais, la révision collective, parce qu'ils n'ont pas pu apprendre avec leurs parents à la maison, dans les écoles où j'étais, et que d'une certaine manière, il y aurait une note, mais tout le monde aurait une bonne note pratiquement. Enfin, il n'y aurait pas de note éliminatoire. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une évaluation qui créerait de la stigmatisation, et que donc on transformerait pas l'histoire en discipline.
Est-ce que ça compte pour le passage à la classe supérieure?
J'en ai entendu dire que qui que ce soit est redoublé à cause de l'histoire. Et de la musique.
Ce qu'on dit là, bon, c'est toute la question de l'évaluation. On pourrait partir loin. Est-ce que c'est une vraie évaluation? Qu'est-ce qui reste quand on a fini?
Si je comprends bien, dans l'enseignement du premier degré, l'enseignement n'est pas piloté par l'évaluation.
Je voudrais terminer, et on peut parler effectivement d'évaluation et reposer toutes ces questions. Je pense qu'on est plus piloté par l'appréciation que par l'évaluation. Mais ce que vous disiez sur le travail d'exposer, de trier les informations, ça nous renvoie quand même au socle. Et là, je crois qu'on a des possibilités aujourd'hui, avec ce que nous présente le socle commun, de dissocier l'évaluation des connaissances, l'évaluation des attitudes et l'évaluation des capacités. Qu'un gamin soit capable de trier d'informations, ça doit s'évaluer, ça fait partie des capacités qui sont dans le socle commun. Que situer un fait historique sur une frise ou sur autre chose, là on est vraiment sur une connaissance. Je crois que là, le socle commun devrait nous aider. Encore faut-il qu'on y fasse systématiquement référence. Je pense que les jeunes maîtres devraient... on en voit de plus en plus qui s'appuient sur le socle justement pour trier ce qui relève de la connaissance, ce qui relève de l'attitude, ce qui relève de la capacité.
C'était quand même beaucoup plus explicite dans les CIO 2007 que dans les CIO 2008 et le socle commun.
Je parle du socle.
Vous parlez capacité.
Le socle, ce sera associé au programme.
Capacité, compétences, ça disparaît en 2008. Quand on est voir les CIO, ça existait en 2007. C'est fini.
Et quel est ma lanterne? Le socle reste valable.
Oui.
L'arrêté de 2016.
Le socle, c'est la loi.
Il est obsolète aussi. Ouais. Il est remplacé par celui de 2008.
Oui.
Et le socle, lui, reste valable.
Oui, bien sûr.
Un socle, d'ailleurs, c'est pour ça.
Normalement, oui. Le problème, c'est qu'on ne voit moins bien, disons, la convergence de fonctionnement, d'articulation entre le mode de rédaction des EO 2008, des EO d'Arcos, et le socle.
Parce que je l'ai eu en main, mais je n'ai pas eu le temps de le regarder. Il y a une évaluation complémentaire sur le socle commun autre que français et mathématiques.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'histoire?
Oui. Ça porte dans la culture humaine.
Oui, c'est la deuxième guerre mondiale. C'est ça qu'il faudrait regarder un peu dans le contenu.
Attention, le socle, il est jusqu'en troisième.
Oui, mais là, c'est le palier. C'est l'évaluation avec les écoles témoins. Voilà.
C'est ça. Oui.
Oui, puisque c'est l'intégralité du socle. Avec les 7 piliers. C'est les 7 piliers qui sont évalués. Mais pour le palier, c'est M2.
Il n'y a pas grand chose en histoire. Il y a la chronologie. Non, ça c'est le programme, mais le socle.
Il y a
savoir lire différents types de
supports documentaires. Et situer un événement par rapport à une
chronologie. Savoir lire, intégrer différentes façons de lire de façon disciplinaire. Donc il y a lire une carte, lire une légende. Lire un croquis, lire une chronologie, ça s'arrête là.
C'est ça. Derrière. En haut à gauche. première colonne à gauche.
Il y a pas grand chose, mais il y a
les principales périodes de l'histoire étudiées. Mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures.
Non, ça c'est dit au 2008, ça.
C'est les compétences attendues à la fin du CM2 de socle commun. Deuxième palier pour la maîtrise du socle commun.
C'est ça.
Pour les programmes.
C'est pas.
Ah, d'accord.
Ça, c'est le deuxième palier.
Non, moi, là, je.
C'est juste ce qu'il y a.
Par contre,
ouais. Et par contre, c'est
connaissance, capacité, attitude.
Moi, le point quand même, je voudrais qu'il nous reste 10 minutes, je voudrais quand même qu'on reprenne les choses. Parce qu'il me semble que la discussion qu'on vient d'avoir montre d'une certaine manière que M. Claus a bien raison. Il y a des programmes et ils ne sont pas appliqués. Et qu'on est dans une situation, je dirais, extraordinairement grave.
La question est, sont-ils applicables?
Non, mais la question est grave. C'est parce que ils ne sont pas applicables.
Là, pour celui qui fait le programme.
Non, mais.
Oui, mais je veux dire, sont-ils applicables? C'est 2018, on n'a sans doute pas assez de recul pour le savoir. Enfin, je veux dire. Mais
les autres aussi.
C'est pas nouveau. Les autres non plus, c'est pas nouveau.
Jamais le programme n'a été appliqué.
Tous les enseignants ont fait preuve d'une certaine capacité d'inertie.
Avec des chèques énormes.
Et puis comment est-ce qu'on mesure véritablement?
Enfin, non, je ne sais pas vous dire. Moi, je pense que quand même, on est dans une école d'un pays démocratique. Et le fait de dire, d'une côté, il y a la loi. Et d'autre part, on fait comme si ça n'existait pas, me paraît, du point de vue de l'éducation scolaire, grave. Parce qu'on est exactement à contre-courant de ce qu'on veut apprendre aux enfants. Donc je pense, moi je ne suis pas du tout dans une perspective qui est de dire, c'est pas grave, on fait pour les enfants comme c'est bien. Bon. Donc,
On fait ce qu'ils aiment. Oh, ils adorent ça, on va faire ce qu'ils aiment.
Oui, non, mais ça, je ne crois pas. Ce discours, c'est on fait ce que j'aime et ce que je sais leur faire aimer. C'est derrière le discours du plaisir des élèves. Il n'y a jamais le plaisir des élèves. Il y a toujours le sentiment de réussite de l'enseignant par rapport à eux. Alors après, ils le formulent de cette façon-là. Bien sûr que oui. Mais ma question, elle est, comment est-ce qu'on peut rapprocher les deux choses? C'est-à-dire, d'une part, alerter sur... Dans la prescription telle qu'elle est donnée, qu'est-ce qui paraît effectivement structurant de manière positive pour un enseignement ordinaire et sur lequel on va respecter la loi? Et en même temps, qu'est-ce qui ne nous paraît, étant donné les enfants auxquels on a affaire, être la façon d'interpréter, mais de le faire de manière explicite et pas de manière cachée? Si vous voulez, moi, ce qui me paraît grave, c'est que on puisse arriver à une situation où on dise, bon, ben, c'est une loi qui ne marche pas, nous on fait ce qu'on a à faire puisque ça fait redoubler personne finalement, c'est pas grave, ça va être que sur français et maths qu'on va se prendre des baffes parce qu'on aura les évaluations qui baissent, on aura, voilà. Donc c'est là-dessus qu'il me semble qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus avant pour faire des propositions.
Enfin. Voilà, mais déjà dans les propositions, le rapport de l'inspection générale de 2005 faisait bien le constat que les programmes n'étaient pas suivis, et donc il disait bien dans les recommandations en fin de rapport qu'il fallait vraiment mettre en place dans les écoles des vraies programmations par cycle, avec de vrais parcours d'enseignement ou avec un vrai travail d'équipe, et ça je ne suis pas sûre que ce soit fait sur le terrain alors qu'il y a déjà 4 ans.
Est-ce que c'est faisable?
Il y a quelque chose,
depuis qu'on parle, il y a quelque chose qui est présent tout le temps, c'est le problème de la formation. Et quand on voit le temps imparti à l'IUFM pour la formation en histoire comme pour les autres disciplines, et quand on voit aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'évaluation de la formation du cursus scolaire, puisque les étudiants qui arrivent en PE2, ils sortent du système scolaire. Donc on a quand même bien échoué tous ensemble, primaire et secondaire. Il y a un gros problème, puisque on en est tous témoins qu'il y a des inepties qui sont... Donc il y a un gros problème de la formation en général. Et si on continue à ne pas former les nouveaux enseignants ou à les former avec un quota d'heures ridicule, on va aboutir à une catastrophe.
Alors, il y a deux choses. Il y a le problème de la formation des enseignants, je dirais le problème du savoir historique des jeunes enseignants du primaire.
Oui.
Pour dire, c'est quel est le manuel du secondaire dont on pourrait estimer qu'il faut absolument ou les deux ou les trois, ou la petite bibliographie qui doit faire l'objet, en quelque sorte, du prêt-à-porter minimal pour pouvoir...
Le bagage minimal.
Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas faire un cours de l'histoire pour des CE2 en lisant un livre de CE2. Il faut au moins avoir lu
des outils comme ceux de...
Il y a mon voisin qui a une question à poser.
Ah, non, c'est pas une question, c'est simplement un témoignage, parce que moi je forme. Ce dont je m'en suis aperçu, c'est que les stagiaires sont très demandeurs de programmation. C'est-à-dire, dès qu'on leur fait une programmation, ils sont très contents parce que, au moins, ils ont une boussole. Et ce qui leur manque, c'est une boussole. Et cette boussole, c'est quoi ? C'est un cadre chronologique simple, ou un cadre, disons, d'études simples qu'on fait à partir d'un des programmes, et qui permet d'isoler les différents points forts, ce qui était un très bon mot, à mon avis. Donc, ce dont ils ont besoin, c'est d'une part un cadrage chronologique simple, qu'ils s'approprient, c'est-à-dire qu'il faut les faire travailler dessus. Et leur faire travailler sur l'ensemble du cycle, quitte à leur donner des solutions, mais jamais leur donner avant. Et d'autre part, il y a une programmation notionnelle. C'est-à-dire que ce qui permet d'unifier les savoirs, ce n'est pas les faits, c'est les notions. On parlait de TICE tout à l'heure sur les monarchies, la monarchie absolue. Qu'est-ce qui est intéressant de faire sur la monarchie absolue ? C'est la définition de la notion de la monarchie absolue. Voilà, comme ça, c'est abstrait. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement un roi qui a tous les pouvoirs. Et qui a le pouvoir militaire, qui a le pouvoir religieux, qui a le pouvoir exécutif, qui a le pouvoir législatif. Avec le tableau de Hyacinthe Rigaud, on le fait. Il suffit de ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? C'est simplement que l'enfant fasse, enfin qu'on fasse au moins avec eux l'élaboration d'une phrase d'un synthèse, où on va dire le pouvoir absolu, le roi est un monarque absolu, parce qu'il a tous les pouvoirs. Deux points, ce qu'on a listé ensemble. Moi, pour moi, l'évaluation qu'on va faire, ça va être après qu'on a fait tout ça, c'est à un moment donné, lui dire, une question ouverte, qu'est-ce que la monarchie absolue ? Qu'est-ce qu'un monarque absolu ? Pourquoi l'éducateur a créé un monarque absolu ? Et si à ce moment-là, il est capable de rédiger une phrase où il dit, mais c'est un roi qui a tous les pouvoirs, parce que au moins, il a le pouvoir militaire, etc. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Mais ça suffit, à mon avis, pour traiter de la monarchie absolue.
Mais les programmations et les repères ne vont pas.
C'est très difficile.
Mais on s'en fiche du tyran, à la limite. Pour le moment, ce qui compte, c'est définir la monarchie absolue. Alors ensuite, si on veut...
effectivement, pas définir la monarchie absolue.
Attendez, ensuite, si on va aller plus loin... C'est-à-dire, si on va aller plus loin, on peut dire un monarque absolu a des limites, justement. Parce qu'il n'a pas un tyran. Mais déjà, dire qu'un monarque absolu, c'est pas qu'il a... c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'il a... il a un mode de gouvernement. Et puis ensuite, on rajoute...
Un mode de gouvernement, c'est pas concret pour un enfant. Hein.
Oui, enfin, moi, c'est ce que je dis. C'est le mot que j'emploie, mais il est bien évident que l'enseignant, lui, il emploie des mots que n'emploie pas les enfants. Ce qui permet d'unifier les savoirs.
Donc, je veux dire, il y a des distances...
Non, puis ensuite, on verra les limites. Mais dans un premier temps, on voit la composition de pouvoir, dans un second temps, les limites. Mais moi, c'est ce qui me semble important là-dedans par rapport aux textes à trous, aux dates, etc. Moi, je ne suis pas contre. Mais il y a un moment, il me semble qu'il faut que l'enfant rédige quelque chose par lui-même. Parce que c'est à cette condition qu'on verra s'il a compris une idée ou pas.
Oui.
Même si c'est très court, même si c'est très court, même si c'est maladroit, même si ce n'est pas les termes qu'il faut.
Et qui peut faire un support d'apprentissage.
Je suis très réservé.
On peut voir s'il a compris.
Mais si, parce qu'il y a un moment où il faut faire avec eux.
Je ne sais pas si ça doit être un objectif de l'école primaire, très honnêtement. Mais écoutez, l'exemple que vous donnez me confirme, parce que là, s'il y a une notion abstraite, on peut s'adresser celle de pouvoir. Mais la notion de pouvoir que vous avez décrite à travers, dans un cas particulier, et ce que j'observe, c'est la grande confusion qu'il y a dans l'esprit des enfants sur une notion qui apparemment est aussi simple. Président de la République, le maire, il y a une confusion immense. Moi, j'en resterai à une évaluation qui articule effectivement un lexique sans aller aussi loin que toi, Anne-Marie, parce que y compris féodalité, c'est pareil, ça paraît très complexe, mais qui n'est pas d'erreur, je dirais, des termes un peu un vocabulaire, des représentations. Des dates, et que l'enfant soit capable, sur la base d'une chronologie, de ne pas faire de trop grosses dissonances du style les hommes préhistoriques vivaient, parce que ça quand même on l'a, au temps des...
Les Romains.
Non, au temps des dinosaures. Voilà, au temps des dinosaures. Merci, le film...
Voilà.
Jurassic Park. Voilà ce que Jurassic Park a mis dans la tête des enfants. Voilà.
Moi, je retiens quand même de ce qui vient d'être dit, que tu peux faire travailler à la production d'écrits, comme on fait travailler à la production d'écrits en français, dans cette perspective-là, ce qui ne signifie pas qu'on va pour autant mettre une note à toutes les productions, parce que c'est très bien qu'un tiers de la classe n'y parviendra pas, et qu'à ce moment-là, ça deviendra, l'histoire deviendra un sujet de style. Comment dire ? Il faut comment faire pour maintenir dans ces disciplines, pour qu'il puisse y avoir le travail de mobilisation, même des enfants qui ne sont pas des bons élèves. C'est ça qui est quand même, qu'on oublie de dire peut-être. C'est la mobilisation d'élèves qui par ailleurs peuvent être en échec scolaire et qui se trouvent extraordinairement mobilisés sur cet endroit-là. Mais si on les remet dans des dispositifs de ce type-là, pas simplement à titre d'essai pour valoriser les réussites, mais pour stigmatiser les échecs, alors à ce moment-là, on
ce qui veut dire que cette production, il faut que le maître la lise.
La lise, la fasse, valorise celles qui sont très bien. Et puis,
il revoit ça avec les élèves. Au moins, on revoit ceux qui ont compris.
Ils le reprennent avec l'élève.
Voilà, lui, il le sait, ce que, mais il n'en fait pas un examen, je dirais.
Mais il faut arriver à faire écrire tous les élèves.
Oui, mais ça devient vite une habitude de travail, quand même.
Parce que je crois que, autant c'est un outil d'évaluation, c'est un outil d'apprentissage. Parce qu'en formulant avec ses
propres. Mais ça, c'est des IOP 2002, hein. Il n'y a pas de souci, il faut continuer sur cette question-là. Ce n'est pas en contradiction avec les IMO 2008. On peut tout à fait continuer à lire et écrire 2 heures par jour dans les diverses disciplines.
Même faire raconter des événements qu'on a racontés en classe, les faire raconter.
Voilà, bien sûr. Oui. Juste pour donner mon témoignage, donc en fin de séance d'histoire et d'autres choses, dans toutes les séances, sur l'ardoise, on avait pris l'habitude d'écrire ce qu'on avait appris, ce qu'on avait retenu, en balisant au tableau les termes un peu de vocabulaire spécifique pour le cas de l'histoire. Donc au début, on construisait, au début de l'année, une trace collective. Donc eux, un temps individuel, ils écrivaient ce qu'ils avaient retenu. Au début, c'est pour vrai, il ne faut pas être trop exigeant, mais bon.
Mais ça vient.
Ça vient.
Ça vient.
Et puis, donc, après, ils lisaient leur écrit et on construisait une trace collective qui après, ils se recopiaient. Et après, au fur et à mesure de l'année, en fonction de leur avancement dans les apprentissages, certains pouvaient garder leur trace à eux.
Leur trace individuelle. Pas la trace collective.
Et on copiait les deux dans ces cas-là. Parce que forcément, c'est ceux qui sont les plus rapides, donc ça permettait de différencier.
Non, mais c'était devenu une habitude de travail. Si on pense que ça sert aux Français aussi.
Ça sert aux Français, puis en termes de métacognition, ils savent ce qu'ils ont appris et pourquoi on l'a appris. Et du coup, ça les met dans une réflexion automatique où ils savent forcément qu'à la fin, on va leur demander qu'est-ce que vous avez appris.
Sauf que ça, c'est quand même un processus que tu mets en place.
Quel nom ?
Déjà, un peu de
bouteille. Oui, voilà. Oui,
parce que ça, c'est les jeunes. T'as beau leur dire que c'est comme si c'était le mieux.
On arrive quand même à les convaincre de leur dire.
Oui, mais si tu leur dis trop de choses,
ça me fait convaincu. Ils sont convaincus. Je me fais aider là. Ça
sent
bien. On va arrêter dans 5 minutes.
Parce que la question, c'était comment on peut faire pour améliorer cet enseignement. Ce qu'on vient de dire, ça nous amène à ce que dit M. Lévy tout à l'heure. C'est-à-dire que le pilotage, finalement, tout le monde vient de le dire. Peut-être pas être d'accord, mais c'est les mots. C'est à peu près ce que vous venez de dire, c'est le pilotage par l'évaluation.
Mais à condition de penser que l'évaluation, c'est pas la note. Voilà.
Non, mais c'est après la forme de l'évaluation. On est bien sur du pilotage par l'évaluation. Il va falloir qu'on établisse ce que l'on veut évaluer et si ce sont des connaissances.
Ce qui est évaluable, ce qui n'est pas évaluable.
Deuxième point, je crois, par rapport à la question de la monarchie absolue, quand on dit. Il faut parler des tyrans. Là aussi, on fait intervenir la causalité. Parce que qu'est-ce qui nous dit que nous que c'est un tyran ? C'est
parce qu'on
connaît. On connaît l'après. Ça sera la Révolution française.
Non, c'est parce qu'on peut opposer le roi.
On n'est pas obligé. Et là, c'est peut-être aussi un choix didactique à faire, c'est de dire la causalité. Il va falloir la résorber au maximum de façon à ce qu'on travaille des notions et que les problèmes de causalité, on essaye de ne pas en faire une évaluation, justement. C'est pas ça que l'on vise. Et puis je crois que le troisième point qui permettrait d'avancer sur l'enseignement de l'histoire, c'est le respect des horaires scolaires et de tous les horaires scolaires. J'en parlais en aparté tout à l'heure avec Philippe Clos et un collègue du Rhône.
À partir du moment où on rentre 10 minutes en retard le matin et l'après-midi, ça fait 20 minutes. Sur une semaine, on a perdu une heure.
Et déjà, on a perdu 3 heures.
Et c'est forcément le PS ou l'histoire qui va.
Non, c'est pas le PS.
Et je crois que là.
C'est parce qu'il y a des horaires de gymnase.
Absolument. C'est jamais le PS.
Quand il y a gymnase.
Oui. Aussi quand il y a gymnase. Mais bon, je crois que là, c'est un point d'organisation qui fait aussi que l'histoire passe à l'as comme la conscience. Il y avait plus de 5% des enseignants qui pratiquaient.
Ceci dit, tu sais, maintenant, avec les nouveaux horaires, je sais qu'on a fait l'animation pédagogique concernant l'histoire avec les maîtres de cycle 3, il faut calculer vraiment très précisément parce que le volume horaire est beaucoup plus, pardon, il est annuel, donc ça nécessite un découpage. Et puis une organisation au sein du cycle n'est pas simple à mettre en place.
Alors, moi, je faisais une conclusion, je dirais. Il faut qu'on s'arrête. Donc, ce que je retiens de notre conversation, c'est une des choses qui pourrait aider les jeunes qui n'ont pas toutes les maturités, mais ils vieilliront, il suffit d'attendre. Hein. Ça viendra. Et on espère qu'ils vieilliront en se cultivant et qu'un jour ils pourront faire de l'histoire occasionnelle. Mais on ne peut pas attendre ça d'emblée d'eux, mais il faut les prévenir. C'est un point très important. Un des lieux sur lesquels les enfants sont les plus demandeurs, et il faudra qu'ils apprennent progressivement, mais en regardant la télé, en lisant des magazines, en ayant des amis historiens, à prendre de la distance pour pouvoir répondre là-dessus, mais ils ont le temps, ça viendra à son heure. C'est sur l'articulation entre ce qui se passe dans l'actualité, y compris médiatique, un film, voilà, sur l'Holocauste ou sur la préhistoire, la manière dont les enfants vont leur demander d'apporter leur témoignage de enseignant, qu'est-ce que vous avez, monsieur et madame, en dire, parce que ça nous touche du point de vue de notre mémoire historique. Et là, les questions sensibles vont être en premier lieu. Mais ça, c'est une progression de long terme. À côté de ça, il y a l'enseignement régulier de l'histoire, qui a des horaires dont il faut essayer de les respecter autant que possible. Comment ? Alors, je retiens l'idée que le fait de donner une programmation, un cadre de programmation répartissant un certain nombre d'éléments dans le temps et en mettant le doigt sur les points notionnels les plus importants à l'intérieur de ce cadre permet de balayer en une année ce qui est prévu à l'emploi du temps de façon qui ne paraît pas insurmontable. Ou sur trois ans. Le problème, c'est de distinguer ce qui est programmable dans l'école sur trois ans et ce qui va être de leur responsabilité pour leur année, sachant qu'ils ne seront peut-être pas là l'année prochaine.
Oui, mais ce que je disais, dans trois ans, quand on programme sur trois ans, on a très spécifiquement ce qu'on attend dans une année.
Bien sûr. Mais pour que eux... mais du coup, ça permet dans ce cadre-là de récupérer des points sur lesquels on peut passer beaucoup plus de temps que d'autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas, parce qu'on a un cadre qui va se dérouler sur l'année, obligé de faire du saucissonnage et de traiter chaque chose de la même manière. Et que du coup, on peut dire, qu'est-ce que je vais traiter avec un film? Qu'est-ce que je vais traiter avec une visite? Qu'est-ce que je vais traiter à l'occasion d'un récit ou d'une autre lecture? Et que du coup, ça permet de penser, pour arriver au bout du compte, une réflexion notionnelle telle que vous le disiez, mais des voies d'entrée qui peuvent ménager, je dirais, des cultures différentes à l'intérieur de ce cas-là.
Plus ou moins vite. Exactement.
Et des choses qu'on peut laisser tomber, mais on le dit. Voilà. Pour éviter ce phénomène d'îlot. Dit comme ça, ça vous paraît gérable. Et le dernier point, c'est leur dire qu'il faut absolument qu'ils travaillent la lecture et l'écriture en histoire. Puisque ce qui... Mais c'est évident. Dans les textes, ça a été supprimé. Oui. Donc on peut penser que ça a été supprimé dans la pratique. Mais que c'est bien sur la lecture et l'écriture que d'une certaine manière, on sortira d'être simplement... Le plancher minimal, c'est l'exercice à trous avec la maîtrise du vocabulaire spécialisé, mais il faut aller vers la production d'écrit.
Je dirais aussi l'oralisation, parce que justement, ce qui est très bien de faire à la fin d'un cours, c'est de faire récapituler ce qu'on a appris.
Le propos oral-écrit, dans l'interaction, oral-écrit.
Il y a un moment qui est
déjà... Ça vous paraît raisonnable, ça, comme mise en relation de pratique réalisable et en même temps de respect dans certaines limites de la lettre, de l'écriture, de manière à pas dire
Il y a des textes, non, on s'en fout, parce qu'on peut. Ce qui permet de faire rien.